Comment situes-tu l'ordre maçonnique, parce que je l'ai entendu, par rapport à l'ensemble des obédiences? Il y a l'ordre maçonnique et l'ensemble des obédiences.
Oui,
alors là, c'est...
On parle de deux choses de nature totalement différente. L'ordre maçonnique, je l'ai résumé tout à l'heure en évoquant les quatre principes fondamentaux qui relèvent essentiellement de la spiritualité, de la symbolique, etc. N'oublions pas que, pour nécessaire qu'elles soient, les obédiences ne sont jamais que des structures de nature profane. Lorsqu'en 1717, les quelques 20 maçons qui se réunissent à Loye et le Gril dans une salle qui fait 6,50 m sur 4 mètres, il ne peut pas y avoir des foules, ces gars-là sont animés par deux soucis. Le premier, c'est que les loges opératives, faute de commandes de travaux, etc., ont vu leurs effectifs dégringoler, et par conséquent, les souscriptions qu'ils faisaient à la caisse commune pour soutenir les veuves et les orphelins baissaient de façon considérable. Leur idée, puisque désormais, à partir de 1717, se multiplient des loges dites spéculatives, c'est de mettre à contribution, au fond, l'ensemble des loges et de créer une structure qui récupérera ses participations pour les redistribuer aux ayants droit. Le second souci, c'est que, avec le développement du nombre des loges dites spéculatives, se sont également multiplié les charlatans, les escrocs, qui, prétendant arriver d'une loge lointaine, mettent à mal la générosité des frères qui se trouvent dans ces loges. Donc, la solution logique, c'est de tenir une sorte de registre de ceux qui participent de l'ordre véritablement, et, disons, d'en contrôler les effectifs, et par ailleurs, de contrôler les contributions. Donc, au départ, l'obédience est une structure de nature profane et qui a toutes les caractéristiques d'une agence, disons, de direction du personnel et d'agence comptable. C'est tout. On n'a jamais vu, jusqu'à ce jour, une obédience quelconque recevoir un profane dans l'ordre. On ne l'a jamais vu élever un apprenti au grade de compagnon, on ne l'a jamais vu exalter un compagnon à la maîtrise. Pourquoi ? C'est parce qu'elle ne dispose d'aucun pouvoir spirituel, symbolique, initiatique. Elle est confinée aux tâches subalternes, mais nécessaires, de administration des effectifs et agence comptable. Bon, le problème, c'est qu'effectivement, comme toute administration qui se développe, l'obédience improprement appelée Grande Loge de Londres et de Westminster, ce qui a contribué à la confusion ultérieure, a fini par persuader les vénérables maîtres qui constituaient cette Grande Loge de faire prêter l'obligation des nouveaux profanes admis dans l'ordre, non seulement sur les constitutions, c'est-à-dire les principes essentiels, spirituels et éthiques de la maçonnerie, mais encore sur les règlements généraux fabriqués par l'obédience. À partir de ce moment-là, on avait affaire à une double escroquerie, une structure subalterne profane s'introduisait ainsi en devenant partie intégrante de l'ordre parce que, tout simplement, on obligeait les nouveaux à prêter l'obligation sur les règlements généraux. Deuxième escroquerie plus grave, car elle perdure jusqu'à nos jours, c'est que tout nouvel être humain, homme ou femme, qui pénètre, qui est admis, reçu dans une loge, est contraint de prêter son obligation sur les principes spirituels des constitutions, mais aussi sur les règlements généraux. Or, il est constant qu'à chaque convent annuel, les règlements généraux, pas les constitutions, sont susceptibles de voir supprimer les articles, en ajouter d'autres, en modifier d'autres, etc. Et ce qui est grave, c'est que le franc-maçon, dont les opinions ou les croyances ou autre chose, se trouve en contradiction avec l'un ou l'autre des articles de ces règlements généraux, se trouve pieds et poings liés, parce que s'il s'oppose à un article de ces règlements généraux, on lui dira « tu es parjure à ton serment ». Et donc, pas question, je dis que c'est là une véritable escroquerie.